développez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie. La référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Alexis Fricker.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Émission spéciale d'Appel sur l'actualité aujourd'hui jusqu'à 11h, car en ce 3 mai 2018, eh bien cela fait 50 ans tout juste que les étudiants qui occupaient alors la Sorbonne à Paris en étaient expulsés par la police. Et tout cela a mis le feu aux poudres en studio avec nous pour cette émission. Christelle Dormoy Rajaramanan, bonjour.
Bonjour, merci vous de votre invitation.
Merci d'être venu. Vous êtes docteur en sciences politiques à Paris-Nanterre et vous avez coordonné le livre Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu aux éditions de l'Atelier. Alors, vous avez été très nombreux auditeurs à nous écrire et à nous contacter pour poser des questions sur Mai 68 en France. On va y répondre avec notre invité. On va aussi parler de l'onde de choc de Mai 68 ailleurs dans le monde, des mouvements de contestation en Afrique notamment. Et puis, vous entendrez des témoignages de Dakar au Sénégal, mais aussi de Madagascar, de Kinshasa notamment. Mais pour le moment, on va revenir sur ce qui a déclenché ce mouvement de mai 68 en France avec cette toute première question qui nous vient de Delphin. Bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour tout le monde.
Delphin, vous nous appelez du Bénin, d'Abomey-Calavi. Je vous écoute.
Quelles sont donc les raisons qui ont suscité ce soulèvement?
Alors Christelle Dormoy Rajaramanan, qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce mouvement de mai 68 en France pour faire le point, pour commencer donc?
Alors le mouvement a commencé parmi les étudiants avec des grèves qui commencent à partir de novembre 67, notamment à Nanterre, face à une politique de sélection à l'entrée de l'enseignement supérieur qui a commencé à être annoncée à ce moment-là par le ministre de l'époque, Alain Perfit. Et donc, les étudiants ont commencé à se mobiliser, non seulement pour lutter contre cette loi annoncée, et pour demander plus de moyens, de la méthodologie, de l'encadrement, notamment inspiré par la parution en 1964 des héritiers, les étudiants et la culture, de Bourdieu et Passeron, qui dénonçaient la reproduction sociale des inégalités, rejouée à l'université, qui ne donnait pas assez les moyens de suivre ces enseignements au nouveau public scolaire, puisqu'il faut bien avoir en tête que...
L'idée, c'était vraiment de changer le cadre, en fait. Le cadre de la manière d'enseigner.
Oui, tout à fait, parce que donc les années 50-60 sont marquées par un développement très très important du public d'étudiants. La période la plus importante est celle de 63-68 où on a une accélération très forte. On arrive à 600 000 étudiants en 68 alors que il y en avait moitié moins 10 ans plus tôt.
Ensuite, il y a eu des figures qui ont mené cette fronde-là, qui ont émergé. C'est la question que vous nous posez, Delvi. Bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous et un grand bonjour à votre formidable équipe au Standard.
Eh ben on les remercie évidemment, ils sont très efficaces pour modeler et construire toutes les émissions que nous faisons. Vous êtes auditeur de RFI au Congo. Que voulez-vous savoir sur ce mouvement de mai 68?
Quelles sont les figures clés de cet événement historique?
Alors, Christelle Dormoy Rajaramanan, qui a mené, en fait, cette fronde-là? On sait qu'il y a Daniel Cohn-Bendit, Daniel Lerouge. Il y avait d'autres personnes également.
Alors oui, bien sûr. Vous avez notamment Alain Gesmard qui était le leader du syndicat des enseignants de l'enseignement supérieur, le SNESUP. Vous aviez Jacques Sauvageon qui était président de l'UNEF. Mais il faut bien avoir en tête que derrière ces porte-paroles, ces porte-drapeaux, eh ben, il y a la foule des anonymes à qui justement on a voulu rendre la parole dans notre livre coordonné avec Boris Gobi et Éric Neveu. Parce que faut pas oublier que donc de cette mobilisation initialement étudiante, on est arrivé très vite à la plus grande grève de l'histoire de France avec entre 7 millions ou 13 millions de grévistes selon les estimations. Donc c'est tous ces anonymes qui se sont mobilisés, donc d'abord dans les universités, et pas seulement des militants, hein, qui n'étaient pas forcément si nombreux à la base. Donc beaucoup d'inorganisés se sont greffés au mouvement et l'ont alimenté. Et puis très vite dans les usines, il y a eu des mobilisations par la base, hein, contre tout appel des centrales syndicales qui après ont suivi le mouvement qui est vraiment parti de la base des salariés.
C'était également donc pour agréger en tout cas ces mécontentements des travailleurs, hein, parce que les revendications elles portaient notamment sur les conditions de travail. En fait, il y avait ensuite une jonction des luttes en fait entre les luttes étudiantes et les revendications ouvrières. C'est une convergence des luttes. Il y a eu des grèves notamment dans plusieurs entreprises, hein, les usines Renault à Billancourt, on le sait bien, Peugeot à Montbéliard, ou encore des grèves dans différents domaines durant de nombreuses semaines, SNCF, RATP, Opéra de Paris, Banque de France, les ordures, les raffineries de pétrole. Et justement, on a un témoignage d'un auditeur qui à l'époque était en France, qui travaillait dans une usine en région parisienne. Bonjour Issia.
Allô ?
Oui, allô, bonjour Issia.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct avec nous, vous nous appelez de Bamako, mais en 68, vous étiez en France, vous travaillez en région parisienne. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en mai 68 ? Exactement. Racontez-nous.
Exactement, en 68, je travaillais dans une usine aéronautique sur le quai, à Suresnes.
Oui.
C'est une grosse boîte aéronautique. Donc, après l'événement des étudiants, la métallurgie, on suivit également. J'ai dit que toutes les usines, pratiquement, sont rentrées dans la même manifestation que les étudiants. C'est devenu vraiment une grosse manifestation qui a bloqué pratiquement, je dirais, toute la France, hein.
Oui, oui, ça, évidemment.
Il y avait les étudiants, il y avait nous, les travailleurs aussi de toutes les usines. Bon, rien ne fonctionnait, quoi, puisque le bus, l'avion, tout était arrêté.
Et vous, alors, dans votre entreprise, bien précisément, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas ? Qu'est-ce qui a fait que vous demandiez autre chose à l'époque ?
On demandait l'évolution, parce qu'on travaillait, c'est vrai qu'en 68, c'était le plein emploi, hein, il y avait vraiment du boulot partout, mais... les gens travaillaient beaucoup aussi, énormément, et puis les heures étaient très, très, très importantes également. On faisait beaucoup d'heures. Hein.
Vous travaillez combien par semaine ? Combien d'heures par semaine ? C'était beaucoup ?
Non, je crois qu'on était entre 8 et 9 heures. Hein.
8 et 9 heures par jour, d'accord.
Ouais.
Donc c'était vraiment la revendication des conditions de travail, et c'était
c'était une des relations, mais il y a aussi le salaire aussi. Il y avait le problème salarial également qu'il fallait demander également, parce que le salaire n'était pas aussi gros que ça, il fallait l'évaluer.
Et c'est d'ailleurs ce mouvement de mai 68 qui a aussi permis des avancées sur les droits des salariés. Christelle Dormoy, Rajramanan, sur les salaires, donc il y a eu une forte augmentation du salaire minimum, mais de manière plus globale, ça aussi, ce mouvement de mai 68, améliorer la manière de travailler pour tous les Français finalement.
Alors, il y a eu des gains au niveau des salaires, une augmentation à peu près de 10% des salaires et de 35% du salaire minimum. Bon, malheureusement, il y a l'inflation qui vite à rattraper ces gains.
Ouais.
Et l'essentiel des revendications était plus encore qualitative que quantitative. On demandait des meilleures conditions de travail, une baisse du temps de travail hebdomadaire. Qui n'ont pas forcément été obtenus. Le paiement des jours de grève n'a pas non plus été obtenu. Donc, il y a eu une très grande insatisfaction au niveau de ces conditions de travail. Certains témoins parlent même d'une augmentation des cadences suite à 68, justement pour compenser les augmentations de salaire. Hein. Donc, il y a eu aussi des représailles.
Pour compenser le manque de productivité aussi durant les grèves. Du coup, il y avait ça directement après, en fait.
Oui, mais au-delà, c'était pour diminuer le coût pour le patronat.
Donc, du coup, vous allez travailler plus. Enfin, c'était un candidat à la présidentielle qui avait repris ça, mais dans d'autres conditions, il y a quelques années. Mais c'était l'idée, en tout cas, à l'époque.
Oui, voilà. Donc, ouais. Ces insatisfactions sur les conditions, les améliorations des conditions de travail, les revendications qualitatives, ça a alimenté une contestation qui a couru tout au long des années 70 et qui étudie bien Xavier Vignat quand il parle d'insubordination ouvrière.
Issia, merci d'avoir participé à l'émission. On va prendre maintenant en ligne un autre auditeur pour s'intéresser plus particulièrement à la manière dont le mouvement de mai 68 n'a pas touché que la France. On retrouve avec nous Alexis en ligne de Dakar. Bonjour.
Oui, bonjour mon homonyme.
Bonjour. Quelle est votre question, Alexis?
Quelles étaient les conséquences des événements de 1968 en Afrique et particulièrement au Sénégal et en Côte d'Ivoire?
Merci pour votre question, Alexis. Christelle Dormois, Rajramanan, ce mouvement de mai 68, on le connaît en France. Évidemment, il y en a eu en Afrique, dans plusieurs pays, notamment le Sénégal.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé là-bas?
Alors, en 68, il y a un mouvement étudiant et une grève générale aussi au Sénégal et qui est réprimé largement. On a notamment un militant maoïste français qu'on voit dans le film de Godard, La Chinoise, qui sort en 66, qui s'appelle Omar Diop, qui est donc formé en France et qui va militer après au Sénégal et qui finira mort dans les geôles de Senghor.
Formé en France et donc aussi pétri, au-delà de ses idées personnelles, de la formation qu'il a reçue en France et donc des idées qu'il digère, qu'il apprend, qu'il voit en venant étudier en France.
Oui, et à un moment où on sort de la guerre d'Algérie et donc les questions de la décolonisation, la question est encore très prégnante. Et donc en Afrique, il y a le mouvement étudiant revendique une émancipation vis-à-vis de l'ancienne colonie, dénonce le néocolonialisme, la permanence de l'emprise des expatriés sur les postes de pouvoir dans l'économie et dans la politique, une élite locale encore largement dépendante de l'ancienne colonie, et demande notamment une africanisation de l'enseignement supérieur avec des contenus plus spécifiques à l'histoire de leur pays.
Un témoignage à présent avec Ibrahim qui a vécu, Ibrahim, ce mouvement de mai 68 au Sénégal. Bonjour.
Bonjour Alexis.
Ibrahim, vous nous appelez de Dakar. Mai 68 au Sénégal. Racontez-nous, quel âge aviez-vous à l'époque? Que faisiez-vous? Comment vous étiez-vous engagé, Ibrahim?
En mai 68, j'avais 20 ans, c'était l'année du bac, et je fréquentais le lycée technique Moïse de la Fosse. Mai 68, c'est parti du mouvement étudiant qui était l'Union des étudiants de Dakar, qui est devenue plus tard l'Union des étudiants du Sénégal,
oui,
et qui était dirigée à l'époque par un ressortissant de Guinée-Conakry, Samba Baldé, qui fait rarement d'ailleurs, et c'est lui qui pilotait ce mouvement. Mais c'est parti pratiquement de la diminution des bourses ou de la dégradation du montant de bourses attribuées aux étudiants et qui ne répondaient plus à leur pouvoir d'achat. Et tout est parti de là, et puis ça a pris un mouvement plutôt socio-économique, plus socio-politique,
oui,
puisqu'il y avait l'emprise de la culture française sur nous, et jusqu'à 1968, peut-être nous, on ne disait plus nos ancêtres les Gaulois, mais c'était tout comme. Et donc, il fallait nécessairement africaniser le système.
Oui, voilà, donc, c'était une histoire qui ne vous correspondait pas, qui était liée très clairement à l'époque coloniale.
Oui, c'était l'époque coloniale, mais nous demandions une relecture de notre histoire, une réécriture de notre culture. Et ce qui explique que nous avions des différents de points de vue avec les dirigeants de l'époque, c'est principalement Senghor.
Oui.
Qui lui était complètement francophile, donc nous on voulait être retrouver nos valeurs Plus tard, il nous a rejoint en disant enracinement et ouverture, mais ce n'était pas dans les faits, dans les réalités, puisque même tous les secteurs économiques du Sénégal étaient occupés par les anciens colons.
Ouais.
Et voilà, qui fait que nous, on n'a pas senti passer l'indépendance telle qu'on la voulait, telle qu'elle était prônée en Guinée, au Ghana.
Oui.
Et voilà, que nous, on ne voyait pas cela ici.
Alors, Ibrahim, je vous interromps, vous restez en ligne avec nous. Vous nous parliez du président Senghor, qui, par la suite, vous a rejoint, hein, vous disiez, en parlant d'ouverture. Mais avant cela, quand il y a eu ce mouvement de mai 68 qui s'est déclenché, quand il y a eu ce mouvement étudiant, ce mouvement même social, plus largement, cette grève générale, eh bien, le président Senghor, le 30 mai 1968, a tenu un discours à la nation et il était très ferme face à cette grève. Je propose de l'écouter.
Aujourd'hui, donc, dans tous les pays développés, sauf un, la grève sauvage, illégale et proscrite. Car il n'y a ni stabilité, ni développement, ni prospérité dans le désordre et l'anarchie.
Voilà, le désordre et l'anarchie. Le président Senghor, le 30 mai 1968, c'est une archive de la RTS. Ibrahim, ce mouvement, la manière dont ça s'est passé dans les rues de Dakar, c'était comment en fait? Ça correspondait au désordre et à l'anarchie, même si cette remarque est orientée, ou alors c'était beaucoup plus simplement vindicatif et porté par une volonté de changement? Comment vous viviez ça? Comment vous vous mobilisiez, vous, à l'époque?
Non, c'était un mouvement contre un système qui était là. Bon, lui, il pouvait l'appeler désordre, mais le désordre était venu du chef du régime qui a violé les franchises universitaires. Et nous aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions en congrès au niveau du campus lorsqu'on a été chargé par les forces de l'ordre. Ça a été un véritable massacre. Et là, on a perdu un camarade.
Oui.
Et il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. À partir de ce moment, nous avions comme leader certains syndicalistes qui n'étaient pas à Dakar, je vais taire le nom, et qui ensuite nous a complètement trahi en disant que notre grève était illégale. Et là, il a reçu une pluie de pierres, il a été insulté. Donc voilà exactement un mouvement qui n'avait rien de politique au départ. Il s'agissait tout simplement de revendiquer nos valeurs, de revendiquer le droit. Mais avec la force, la férocité des forces de l'ordre à l'époque, nous a radicalisés et nous avons pris une position politique face à un acte politique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, si bien mai 68 quand même a marqué les esprits, et ça a peut-être valu ce qu'il y a aujourd'hui à Dakar, mais c'est un mouvement quand même qui a marqué les Sénégalais. On n'a jamais vu de Sénégal jusqu'à aujourd'hui une grève aussi violente, aussi féroce, aussi
et aussi importante qui a eu des conséquences en tout cas sur la société. Ça a marqué un tournant, vous venez de nous le dire, Ibrahim. Merci d'avoir témoigné dans Appel sur l'actualité. Christelle Dormoy Rajramanan, tournant radical dans l'histoire du Sénégal et similitude aussi avec la France dans ce mouvement sénégalais de mai 68.
Oui, à entendre votre auditeur, on voit l'importance de la répression jouée dans la mobilisation. La violence policière en France a joué un rôle très important dans une indignation généralisée qui a fait que les ouvriers, les parents, les salariés, entendant à la radio les reportages en direct dans le quartier latin, expliquant comment des étudiants se faisaient gazer, matraquer, se sont indignés. Le premier appel à la manifestation de solidarité envers les étudiants lancé par les centrales ouvrières hier, le 13 mai, se fait au nom de cette répression. Et ça ressort du témoignage de notre auditeur sénégalais. Voilà, ce sentiment d'injustice et du peuple qui s'élève face au pouvoir d'État.
Le fait de se dire, ça se passe en France, il y a nos frères, nos cousins qui sont là-bas, nos enfants qui sont là-bas, ça peut aussi se passer chez nous et créer un changement de société. On reste ensemble, Christelle Dormoy, Rajramanan. L'émission se poursuit dans 10 minutes, mais avant cela, le journal dans quelques instants.